Le Néobus de retour en 2027. L'État, la province sud et les communes du Grand Nouméa se mobilisent et mettent la main à la poche. Le PIB de la Nouvelle-Calédonie s'est effondré entre 2023 et 2024. Nouvelle preuve que le territoire traverse une crise économique. On parlera du dispositif Erasmus qui va permettre à 10 agents de la province sud de partir en Finlande 3 semaines pour renforcer les compétences dans le domaine de l'éducation. Le marché de Bouloupari fait peau neuve. Après 5 mois de travaux, les Terminalia peuvent désormais accueillir plus de producteurs et surtout plus de visiteurs. Et puis Antoine Comboiré de passage en Calédonie pour un court séjour. Il était sur le terrain cet après-midi à la rencontre des jeunes footballeurs au Mont d'Or. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. Et à la une de l'actualité, la reconstruction du réseau Néobus qui est enfin lancée. À l'arrêt depuis les exactions de l'an passé, la ligne 1 qui relie Nouméa à Dumbéa reprendra vie en 2027. Une étape importante pour la mobilité dans le Grand Nouméa, Léana Colombo.
Oui, une remise en état rendue possible grâce à une subvention exceptionnelle de l'État, accordée dans le cadre de l'aide à la reconstruction après les émeutes de 2024. Le réseau du SMTU, déjà en difficulté depuis des années, a été gravement endommagé. Un ajustement des trajets et des horaires a donc dû être effectué cette année. Nous sommes ainsi passés de 30 lignes à 8 lignes dans le Grand Nouméa et 800 millions de francs sont nécessaires à la reconstruction. Construction du Néobus, 80%, soit près de 580 millions, sont financés par l'État. Le haut-commissaire Jacques Billon.
Cet engagement répond aux besoins de nos concitoyens, des Calédoniennes, des Calédoniens au quotidien. Pour aller à l'école, pour aller au travail, pour aller faire ses courses, on avait besoin d'accompagner le SMTU dans la reconstruction, la réhabilitation de ce réseau de transport qui a subi de lourds dégâts pendant les événements de 2024. Au niveau du revêtement des chaussées à emprunter par le réseau de bus, au niveau du mobilier urbain nécessaire pour le fonctionnement de ce réseau et aussi sur des choses importantes puisque c'est tout le système d'information, de régulation, de contrôle qui a été mis à mal pendant cette période.
Le reste du coût des travaux, soit un peu moins de 300 millions de francs, est financé par la province sud et les communes du Grand Nouméa. La remise en service du Néobus se fera en 2026 et comportera plusieurs actions. La reconstruction du mobilier urbain et des systèmes d'information, mais aussi la réfection des chaussées. Les précisions de Naya Wateu, présidente du SMTU.
Il va y avoir des travaux qui vont devoir être engagés. C'est notamment le cas sur la vallée du Tir. Aujourd'hui, on ne circule pas dans la vallée du Tir parce que tous les équipements signalétiques, les feux, ont été détruits. On a besoin de faire circuler nos bus, mais on a aussi besoin que les véhicules qui circulent autour des bus soient aussi en sécurité. Donc ça va être une de ces tranches-là de travaux qui vont être engagées. C'est une fois que les travaux au centre-ville auront été terminés, de pouvoir reprendre en partenariat avec la mairie de Nouméa la circulation sur cette voie. Aujourd'hui, on passe dans Rivière-Salée et l'idée, c'est de pouvoir poursuivre jusqu'au Midi-Pôle. C'est notre ligne structurante. C'est sur cette ligne aujourd'hui qu'on a le plus de besoins recensés, où les gens circulent le plus.
Avant le 13 mai 2024, 25 000 usagers empruntaient quotidiennement le réseau SMTU. Un nombre tombé entre 5 000 et 8 000 usagers par jour après les exactions. Les appels d'offres seront lancés en fin d'année et le réseau Néobus devrait être de retour en 2027.
Au chapitre économie, les chiffres se succèdent pour témoigner des difficultés que rencontre la Nouvelle-Calédonie. Le dernier en date est révélateur de l'aggravation brutale de la situation générée par les émeutes de mai 2024. Jean-François Baudin.
Le sérum qui regroupe l'ISEE, l'AFD et l'IEOM dans sa dernière publication révèle ce qu'il appelle le plus triste record de la plus forte diminution depuis les années 60. Il s'agit du PIB, le produit intérieur brut, qui s'est effondré de 13,5% entre 2023 et 2024. Fabrice Dufresne est le directeur de l'IEOM.
Ça veut dire notamment une perte assez sensible de la consommation des ménages à hauteur de 7%, mais de manière plus significative, c'est la chute de l'investissement à la fois des entreprises et des ménages de près de 24%. C'est une chute record de perte de croissance en Nouvelle-Calédonie qui n'avait pas été observé depuis 1962, année où l'économie calédonienne avait observé une perte de moins 15% de son produit intérieur brut.
Cette perte de PIB en 2024 est donc très importante. La question est de savoir si ces derniers mois on note des signes encourageants, mais les conséquences des émeutes se font encore sentir, explique Fabrice Dufresne.
Les répercussions des émeutes du mois de mai 2024 demeurent perceptibles et continuent d'affecter une large part du tissu économique calédonien. Si certains indicateurs s'améliore, notamment sur l'extraction minière ou l'exportation du minerai, la production métallurgique. Il y en a beaucoup d'autres qui restent durablement dégradés et qui traduisent notamment un manque de perspective. Par exemple, le nombre de défaillances d'entreprises est en hausse, la consommation des ménages est en baisse sur les 8 premiers mois de l'année 2025 par rapport à 2024, et de nombreux secteurs d'activité sont encore en difficulté.
Le Sérum note encore que la destruction d'une large partie de l'économie implique une précarisation croissante de la population. Précarisation qui s'intensifie à mesure que les dispositifs de soutien public s'amenuisent.
Et nous reviendrons sur cette note du Sérum en détail demain matin. Elle sera commentée par la directrice de l'ISEE, Élise Desmazures, qui sera notre invitée à 7h30. Autre rendez-vous d'antenne, la Foire du Pacifique ouvre ses portes vendredi et pour 3 jours, Baie de la Moselle. Cette année, elle accueillera notamment une forte délégation économique du Vanuatu. Quels sont les échanges aujourd'hui entre le Vanuatu et la Calédonie? Peut-on intensifier les relations économiques et commerciales avec ce pays qui est le plus proche du territoire? Ce sera le thème des Jeudis de l'économie, demain à midi. Jean-François recevra Jean-Marie Dufault, membre de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, Aurélie Scrignac de l'Office de tourisme du Vanuatu, Isabelle Coupé, directrice adjointe de la CCI Nouvelle-Calédonie, Dominique Lefebvre, directeur de Biscochoc et vice-président de NCTNI, et enfin Benoît Maritant de Pacific Pairing. On notera que la délégation du Vanuatu aurait dû arriver lundi, mais le vol Aircal qui devait effectuer la rotation Tontuta-Port-Vila-Tontuta a connu un léger problème. Le pare-brise s'est fendu en plein vol, contraignant le pilote à faire demi-tour. Les passagers ont été débarqués à Tontuta. L'avion a rejoint Magenta pour la réparation. L'aller-retour annulé entre Tontuta et Port-Vila a été reprogrammé à aujourd'hui. Le gouvernement s'est réuni ce matin comme chaque semaine. Il a arrêté notamment 3 projets de loi du pays. L'un d'entre eux étant en fait une modification du code du commerce qui permet aux entreprises de poursuivre leur activité et pour lutter contre la vie chère, Jean-François.
Ces mesures portées par Christopher Gigès, le membre du gouvernement en charge de l'économie, sont de plusieurs ordres, mais elles visent toutes à préserver le pouvoir d'achat des Calédoniens et à simplifier certaines démarches, indique le gouvernement. L'une de ces mesures s'adresse aux acteurs commerciaux et suggère de caractériser comme abus le fait qu'une entreprise en situation de position dominante applique des prix et des marges excessifs. Une autre mesure concerne la relation entre les fournisseurs et les distributeurs et propose de supprimer l'interdiction de toute forme de remise différée. Ces remises différées, comme les ristournes ou les rabais de fin d'année, font partie intégrante de la négociation commerciale entre les fournisseurs et les distributeurs, note le gouvernement. Enfin, le délai de règlement des factures entre les professionnels reste fixé à 30 jours. Mais au lieu de débuter à la date d'émission de la facture, le délai commencerait à la fin du mois qui suit l'émission de cette facture. Et le texte prévoit également d'introduire automatiquement une indemnité de retard si le délai est dépassé. Le deuxième projet de loi du pays adopté par le gouvernement est un train de mesures sanitaires et sociales destinées à faire face à la pénurie de soignants. Il étend le champ d'action des sages-femmes et des pharmaciens en termes de vaccination et permet aussi aux infirmiers de réaliser des consultations et des diagnostics dans leur domaine de compétences et de prescrire certains produits et examens dont la liste sera fixée par le gouvernement.
Le dernier projet de loi du pays adopté ce matin, Jean-François Baudin.
Il permet une meilleure prise en charge du handicap et de perte d'autonomie. Accompagné par 2 délibérations du Congrès, il vise à rendre au gouvernement la compétence de la prise de décision relative au taux d'incapacité, à la perte d'autonomie et à l'attribution des aides. Il s'agit en fait, explique le gouvernement, de sécuriser juridiquement ces décisions importantes pour la vie des personnes concernées et leur apporter une continuité et un meilleur suivi dans leur prise en charge.
Merci beaucoup Jean-François Baudin pour toutes ces précisions. Du côté de Dumbéa maintenant, Génération NC prépare déjà les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 avec le lancement d'une consultation citoyenne. L'objectif est de mieux connaître les attentes des Dumbéens, mais également d'identifier leurs priorités, aussi de s'inspirer de leurs idées. Pour cela, Génération NC met en place différents dispositifs pendant tout le mois d'octobre, au travers notamment d'un questionnaire en ligne accessible par lien et QR code. Des questionnaires spécifiques sont prévus pour les seniors et pour les jeunes, ainsi qu'un sondage via TikTok. Le parti annonce que les résultats de cette grande consultation seront rendus publics en novembre. Emmanuel Tchibaou est opposé à un report des élections provinciales à juin 2026. Le député de la seconde circonscription l'a dit. C'était lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale, Elisabeth Noir.
C'est aujourd'hui 1er octobre à 15h. Il sera à minuit pour nous qu'aura lieu l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Et la proposition de loi qui reporte les élections provinciales doit être examinée prochainement par le Parlement au Sénat d'abord, puis à l'Assemblée nationale. C'est le moment qu'a choisi le député indépendantiste pour faire part de son opposition à un nouveau report des élections provinciales. Un report prévu par l'accord de Bougival qu'il a lui-même signé, mais qui a été rejeté par le FLNKS. Emmanuel Tchibaou s'appuie désormais sur la récente décision du Conseil constitutionnel qui affirme que le gel du corps électoral est conforme à la Constitution pour estimer qu'il faut renouveler les assemblées de province et le Congrès. Selon lui, ce renouvellement permettrait de renforcer l'assise démocratique des décisions prises dans le cadre de la recherche d'un accord sur l'avenir institutionnel. Alors on sait que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a rendu récemment un avis favorable au report des provinciales à juin 2026, des provinciales qui à l'origine étaient prévues en mai 2024 et qui ont été repoussées une première fois à décembre 2024, puis une seconde fois à novembre 2025. Le report doit désormais être entériné par une loi organique dont l'examen par le Parlement a été repoussé en raison de la chute du gouvernement. On attend maintenant la constitution du gouvernement Le Cornu qui est annoncée pour ce week-end. Dans ce cas, le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est engagé à faire examiner la proposition de loi organique dans le prolongement de la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu, c'est-à-dire très rapidement dans les jours qui viennent. Le texte serait ensuite examiné par l'Assemblée nationale, mais le calendrier est désormais très contraint. Et si jamais cette proposition de loi organique n'était pas adoptée dans un délai raisonnable, les élections provinciales devraient avoir lieu fin novembre, c'est-à-dire le mois prochain. Une hypothèse qui n'est toujours pas à écarter.
Et puis on rappelle que Christian Théin pourrait revenir en Nouvelle-Calédonie après que les juges aient assoupli son contrôle judiciaire et celui de quatre autres responsables de la CCAT. Le parquet a jusqu'à vendredi pour faire appel, mais ce retour éventuel suscite de très vives réactions chez les partisans de la France. Une pétition mise en ligne hier matin sur change.org a déjà recueilli 8400 signatures à l'heure où nous parlons.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu et on démarre avec la question du jour. Êtes-vous choqué que Christian Théin puisse revenir en Nouvelle-Calédonie en raison de l'allègement de son contrôle judiciaire ? Si cela vous choque, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, maintenant 93% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il existe aujourd'hui en France un problème de l'indépendance de la justice. Ils sont 7% à être d'un avis contraire. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. À 17h57, on marque une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Hyper-U Païta fête son premier anniversaire et sort le grand jeu pour vous gâter. Du 1er au 11 octobre prochain, participez au grand jeu anniversaire et tentez de repartir avec l'un des 10 pick-up Power King Kong à gagner. Remplissez votre bulletin de jeu et déposez-le dans l'urne prévue à cet effet. Tirage sort le samedi 11 octobre à 16h, remise des clés le dimanche 12 octobre. Jeu gratuit sans obligation d'achat, règlement déposé chez Maître Citrita, huissier de justice à Nouméa.
U, commerçant autrement.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Info soir, Léo Fichou.
Le cluster OpenNC organisé ce mercredi la quatrième édition du rendez-vous Akagou, un événement, Michael Juneski, sur le thème du numérique et des nouvelles technologies.
Oui, ce matin, des conférences qui se tenaient à l'arène du sud de Païta, des stands d'information et des ateliers étaient également à retrouver sur place. Cet après-midi, une séquence plus ludique, le rendez-vous phare, un jeu en réseau grandeur nature, un cyber-challenge, jeu de capture de drapeau. Écoutez, Laurent Rivaton, l'organisateur président de la commission cybersécurité du cluster OpenNC.
C'est un moment important pour nous, c'est une grosse année de préparation à une bonne dizaine de personnes, donc c'est vraiment beaucoup de travail et donc on est vraiment très contents. Le lieu est vraiment très sympa, c'est super. À peu près tout le monde commence à entrevoir que la cybersécurité c'est quelque chose d'important et donc le Akagou, sa vocation c'est vraiment de démocratiser ce sujet-là, de montrer à tout le monde que c'est pas un sujet pour une élite, que c'est vraiment accessible à tout le monde, que tout le monde peut se préoccuper de ça au quotidien. Et donc se soucier de son hygiène de vie numérique pour utiliser tous ces outils numériques qui nous envahissent aujourd'hui et qui nous sont indispensables de la manière la plus sûre possible. Cette forme de gamification du sujet est très, très agréable, je pense, pour tout le monde. À la Commission cybersécurité, notre objectif, c'est de participer au développement de la filière cybersécurité du territoire. Et un des axes de travail qu'on a, c'est de susciter des vocations et de détecter des talents. Donc l'événement à Cagoule, il s'inscrit complètement dans cet axe de travail-là.
Le thème cette année était inspiré de la science-fiction avec une intelligence artificielle maléfique que l'ensemble des joueurs devaient affronter. Ça, c'était le scénario du jeu. Près de 250 participants étaient présents pour cet événement à l'Arène du Sud de Païta.
Vers une collaboration plus poussée entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie, cela faisait 3 jours qu'une délégation académique australienne de haut niveau était à l'UNC. Objectif de cette visite, Léana Colombo, renforcer les partenariats scientifiques et universitaires.
Une visite rendue possible grâce à un programme mis en place par l'ambassade de France en Australie. La délégation, composée de plus d'une dizaine de scientifiques et universitaires australiens, a pu visiter les infrastructures principales de la Nouvelle-Calédonie, soit l'UNC, le Cressica, l'IRD ou encore le Centre culturel Chibaou. Des rencontres ont également eu lieu avec les institutions et les start-up calédoniennes. De quoi donner des idées de collaboration. Explique Claire Rioux, directrice internationale de l'Académie des sciences sociales d'Australie.
Je pense que c'était une visite effectivement courte, mais extrêmement intense et très riche. Et surtout, elle nous a permis, moi et mes collègues, de découvrir non seulement toutes les infrastructures de recherche, d'avoir des échanges très poussés avec des acteurs institutionnels à l'université, également les acteurs des pouvoirs publics, de faire une sorte de cartographie de l'état des collaborations et des recherches entre chercheurs australiens et néo-calédoniens, mais également d'enrichir cette perspective avec une meilleure, je pense, compréhension ou connaissance de la Nouvelle-Calédonie de façon en général, c'est-à-dire ses cultures, son histoire et sa diversité et également la grande diversité aussi des activités économiques.
Un bilan de la visite a été dressé en fin de matinée à l'université en présence de Catherine Rees, la présidente de l'UNC. Selon elle, avoir fait venir la délégation australienne a apporté une vision concrète de ce qui est possible de faire entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie.
Ça apporte déjà une vision claire de nos collègues australiens de ce qui existe en Nouvelle-Calédonie, à l'UNC et au sein du Cressica. L'idée, c'est un peu de faire cette démonstration, une Nouvelle-Calédonie, destination scientifique crédible et viable dans la région pour être un tremplin aussi vers des collaborations avec le reste du Pacifique, parce que nous en avons beaucoup du Pacifique insulaire, et aussi via les organismes de recherche et l'université qui est française, vers les organismes français. Donc ça, je pense que ça leur a été précieux, c'est en tout cas ce qui ressort de leurs impressions. Et pour nous, ça conforte aussi, on a déjà beaucoup quand même de collaborations en recherche, en formation, des conventions avec des universités australiennes, et là, ça les renforce sur des champs nouveaux, dans des domaines qui étaient pour l'instant pas encore tout à fait couverts.
Avant la fin de l'année, l'ambassade de France en Australie va solliciter les membres de la délégation pour établir un document avec des recommandations. Un webinaire sera ensuite mis en place pour assurer une continuité de ces potentiels futurs partenariats.
C'est aujourd'hui que la convention entre la province sud et le dispositif européen Erasmus a été signée. Ce sont 10 agents provinciaux qui vont partir pour la Finlande la semaine prochaine pour une durée de 3 semaines. L'objectif, s'ouvrir à d'autres systèmes éducatifs et in fine améliorer notre propre système. Les précisions de Demi Minacci, directrice adjointe du pôle d'éducation à la province sud.
Nous avons à cœur d'améliorer notre système, de s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit ce projet Erasmus. On est à la recherche d'inspiration et de partage, parce que nous avons aussi de belles choses à offrir dans notre système. Donc on s'inscrit dans une dynamique d'échange et de recherche de nouvelles pratiques pédagogiques innovantes. Alors, on a fait un appel à candidature à l'ensemble de nos écoles de la province sud. Les enseignants et personnels administratifs sont portés volontaires. Donc, ils ont dû motiver leur candidature, être force de proposition aussi, imaginer qui pourrait être la suite de ce beau projet. Et puis surtout, il s'agissait aussi de mettre en avant ce qu'ils faisaient déjà.
Un projet qui est financé à un peu plus de 50% par l'Union européenne, le reste par la province sud. Les inscriptions au job d'été, c'est aujourd'hui. À compter de ce mercredi, les jeunes qui ont entre 16 et 26 ans à la recherche d'un job d'été peuvent s'inscrire sur la plateforme en ligne sur le site de la province sud. Les entreprises sont également invitées à déposer leur offre de stage directement sur le site. Les précisions de Stéphanie Galliot, chef du service de l'emploi et du logement.
C'est un dispositif qui s'adresse aux jeunes donc de 16 à 26 ans pour découvrir le monde professionnel, acquérir une expérience aussi du monde du travail et puis percevoir une indemnité de stage pour financer ses projets ou sa rentrée scolaire. Donc tout se déroule sur la plateforme en ligne que vous avez une page dédiée sur le dispositif Job d'été. Et puis une fois l'inscription validée pour les jeunes, ils peuvent candidater sur les différentes offres de stage qui seront proposées. Au niveau des périodes de stage, donc ça s'ouvre à compter du 17 novembre. Donc les jeunes peuvent aller en entreprise. La durée des contrats, ça varie entre une semaine à six semaines maximum. Donc on peut travailler dans une entreprise ou dans plusieurs entreprises pendant l'été, à partir du moment où on respecte souvent les six semaines maximum dans une entreprise.
Pour toute demande d'assistance ou d'information concernant les entreprises, vous pouvez contacter la hotline employeur au 20 36 05. Je répète, le 20 36 05. Et pour les jeunes qui rencontreraient des difficultés dans leur démarche d'inscription, contactez le 20 48 88. Le 20 48 88. Et puis jusqu'au 4 octobre, et comme chaque année, la DINC, la Direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie, organise plusieurs manifestations. Des manifestations dans le cadre de la Semaine des mathématiques. Lionel Sabot.
Parmi ces animations, le concours Vitémat, dont le premier prix a été remis ce matin aux élèves d'une classe de CM1 de l'école Yvonne Dupont, receiving. Xavier Boussemard, coordinateur de la Semaine des mathématiques pour le premier degré pour la Direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie.
C'est un concours de rédaction d'énoncés de problèmes qui est organisé par la Direction de l'enseignement de Nouvelle-Calédonie. Et on est très très heureux de voir à quel point les élèves qu'on a vus ici, les élèves du CM1B de Monsieur Delorme, se sont investis dans l'opération, puisqu'on a eu deux travaux super intéressants qui mettent en lien pour l'un la lecture et pour l'autre la géométrie et aussi la mesure des distances sur les cartes pour trouver le trésor caché de Christophe Colomb. Alors on apprend à créer des problèmes parce que c'est le meilleur moyen en fait de comprendre de quoi l'on parle, de comprendre ce que l'on fait. Et en fait les élèves, ils ont pour mission, s'ils l'acceptent et si les enseignants l'acceptent, les élèves, ils ont pour mission de créer non seulement le problème, mais aussi la solution au problème.
Lou, Nina, Elena, Esteban et leur maître Dimitri Delorme ont donc remporté avec l'ensemble de leur classe ce concours Vitémat avec des problèmes dans lesquels, vous allez l'entendre, la géographie et l'histoire se sont mêlés aux mathématiques.
L'intérêt ici, c'est de raisonner différemment et se rendre compte que quand on crée une problématique, elle n'est pas si simple. C'est pas si simple d'y répondre, donc ils sont obligés d'ajuster leur problématique et ça crée beaucoup de raisonnement. C'est ce qu'on leur demande de faire, hein, de raisonner, donc ça marche.
Nous, le nôtre, c'était celui du trésor perdu. Après, il y avait celui de Christophe Colomb. Après, un dernier sur les bonbons. Du coup, c'est Christophe Colomb et le trésor perdu qui sont arrivés ex aequo.
Mais Christophe Colomb, c'est pas du tout des mathématiques.
C'est de l'histoire, mais on peut transformer ça en un problème. On disait combien est-ce qu'il y avait, quelle était la masse dans la caravelle de Christophe Colomb, et après on devait faire des calculs. Et c'était les échelles, parce que comme on partait de Papété jusqu'à l'île secrète, on ne savait pas où était l'île secrète.
Et dans la classe située à côté de celle de Maître Dimitri, d'autres élèves participaient toujours dans le cadre de cette semaine spéciale à une autre animation, les défis mathématiques en ligne. En groupe, les élèves devaient résoudre des problèmes en posant diverses hypothèses. Et dans cette classe, les énoncés étaient en plus en anglais.
Find the world and complete the following pyramid. So, je crois qu'on doit trouver les nombres qui manquent sur les pyramides.
C'est une suite. J'ai trouvé. Alors là, regardez, on va d'abord regarder cette suite. Donc ça et ça, ça plus ça, ça nous donne ce chiffre-là. Donc le 10. Donc ça serait peut-être un 3. Et là, un 8.
Et vous avez l'impression de faire des mathématiques là ou c'est...
Peu, oui. Ouais. Un petit peu.
Mais c'est plus amusant qu'habituellement.
Oui, un petit peu plus parce que on va réfléchir tous ensemble en groupe pour dire ah non, toi tu penses que c'est ça, moi je pense que c'est ça, et du coup on réunit les idées pour savoir le résultat final.
C'est plus sympa que d'apprendre les tables de multiplication par cœur ?
Ça, oui, totalement.
Et j'ajoute que la Semaine des mathématiques poursuit plusieurs objectifs. Hein, proposer une image vivante et attractive des mathématiques, ça marche plutôt pas mal. Insister sur l'importance des maths dans la vie quotidienne des élèves, mais aussi développer chez les enfants le goût de l'effort et la persévérance.
Direction Boulou Paris à présent. Après plusieurs mois de travaux, le marché Les Terminalia a été inauguré ce matin, Léana Colombo.
Oui, et la première pierre avait été posée le 9 avril dernier. L'inauguration s'est déroulée en présence du maire de la commune, Pascal Vittori, et de Corinne Colleux, la présidente du marché. Étaient également présents Jean-Gabriel Favreau, élu à la province sud, et Catherine Merckx, commissaire déléguée pour la province sud. Des travaux réalisés par deux entreprises de la commune et qui ont coûté un peu plus de 11,3 millions de francs, financés par la province sud et la commune de Boulou-Paris. On écoute le maire de la commune, Pascal Vittori.
Un espace de convivialité où les gens peuvent venir à la fois faire leurs courses, mais se retrouver. Il y a un deck où les gens peuvent déjeuner le midi ou dîner le soir sous les guirlandes. Le marché est situé au bord de la RT1 et donc il est également très fréquenté par des touristes qui font le tour de Calédonie et qui s'arrêtent également à la distillerie. Donc de plus en plus, ce marché est un lieu d'attractivité et donc c'est la possibilité pour nos producteurs d'écouler leurs produits et puis pour les visiteurs de trouver un endroit où ils peuvent échanger, partager, trouver des produits locaux, puis ramener des souvenirs de la distillerie.
Dans le détail, l'État a financé 5 millions de francs, la province sud 4 millions, le reste a été pour la commune. Avec 6 000 voitures qui passent chaque jour devant ce marché, il est devenu au fil des ans un lieu incontournable pour les amateurs de circuits courts. Avant ces travaux d'embellissement et d'agrandissement, une vingtaine de producteurs étaient présents tous les vendredis et samedis matin. Désormais, les Terminalia pourront accueillir une trentaine de producteurs. Il y a aussi des toilettes publiques qui ont été construites pour le confort de tous. Autant de nouveautés appréciées par Corinne Colleux, présidente du marché.
On attendait vraiment la fin des travaux, ce qui va nous permettre d'accueillir du public et de proposer nos produits de la commune, du terroir, artisanal et puis d'autres produits.
Qu'est-ce qui change concrètement?
Le marché a été agrandi, on trouve 5 places supplémentaires, enfin disons 5 tables, et ça va permettre à d'autres exposants de venir vendre leurs produits. On a un joli deck et donc avec le marchand ambulant qui propose de la nourriture, du café, donc très convivial. Ça a été prévu comme ça, que les gens puissent passer un petit moment, soit acheter ou boire un café. Même des plats sont proposés par les exposants, des plats fraîchement préparés.
Le marché Les Terminalia de Boulou-Paris est donc ouvert les vendredis et samedis matin.
Et on notera également qu'en marge de l'inauguration, une convention a été signée entre la commune de Boulou-Paris, le marché Les Terminalia et le SIVM Sud. Convention en deux volets qui concernent la collecte, le traitement et la valorisation des déchets. Brice Réjean est le directeur du SIVM Sud.
Un premier volet sur les déchets organiques où on s'engage à venir régulièrement sur le marché pour organiser nos opérations canettes contre poule où quand on nous amène 5 kg de canettes aluminium usagées, on échange cette matière contre une poule pondeuse, ce qui permet de réduire la facture sur le transport et le traitement des déchets organiques à l'échelle du SIVM en permettant aux gens d'avoir un traitement à domicile de leurs organiques avec la poule pondeuse. Le deuxième volet de la convention, c'est le lancement de cette monnaie locale entre guillemets qu'on a mis en place. On a appelé Tama pour troc d'aluminium et matières assimilées et qui permet d'échanger soit du verre usagé issu des emballages, soit ces fameuses canettes en aluminium contre un jeton qui en réalité permet d'acquérir des produits locaux sur le marché et donc là en l'occurrence sur le marché des Terminalia.
L'objectif étant bien évidemment de rendre les citoyens mais aussi les producteurs sur les marchés plus responsables et acteurs du développement durable. 18h13, seconde pause, on parlera sport juste après.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La Ligue calédonienne de badminton vous invite ce week-end à l'Arène du Sud pour son championnat territorial jeune. Les matchs auront lieu de 8h à 19h les samedis et dimanches. Rendez-vous à l'Arène du Sud, l'entrée est gratuite.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
L'UNC s'illumine pour la Nuit de la Science 2025 sur le thème des intelligences. Le 7 octobre sur le campus de Bakau et le 8 octobre sur le campus de Nouville de 16h à 21h. Plongez dans un univers fascinant entre spectacles numériques et danseurs de hip-hop, débats, projections ciné, visites de laboratoire, ateliers Fab Lab et immersion dans les étoiles avec Astragora et Johanna Berthaud de la NASA et le Planétarium. Entrée libre, ouverte à toutes et à tous. Ne manquez pas ces moments de découverte et d'émerveillement de la Nuit de la Science à l'UNC, organisée dans le cadre de la Fête de la Science. Rendez-vous sur unc.nc pour le programme complet.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Léo Fichou.
Antoine Comboiré est de passage en Calédonie pour un court séjour. L'ancien footballeur et coach est actuellement donc sur le territoire. Et dès cet après-midi, il était sur le terrain à la rencontre des acteurs locaux du football au Mont d'Or, Michael Juneski.
Antoine Comboiré qui a donné le coup d'envoi d'une rencontre amicale entre le CA Saint-Louis et une formation du RIMAPNC. Sa visite sera essentiellement tournée vers la grande conférence de la Fondation Roger Cadour pour réunir les acteurs du monde sportif, économique, institutionnel, éducatif et associatif dans 8 jours. En attendant, dès son arrivée, il n'a pas hésité à retrouver les terrains, comme c'était le cas au stade Boeva du Mont d'Or, pour échanger avec les jeunes la passion du ballon rond avant tout.
Du bonheur, de la joie, mais après c'est... Moi, j'aime pas les grands mots, donc voilà, c'est des choses toutes simples. Voilà, c'est un match de foot entre donc, les militaires ou moi, donc jeune à 12-13 ans, donc je me voyais sur le terrain militaire à jouer avec eux. Et puis j'étais à l'école à Saint-Louis, voilà, j'étais au Marianne Tabor, j'étais à Saint-Louis, j'ai tous mes frangins qui étaient donc de Saint-Louis. Puis dire voilà, des fois on n'est pas toujours d'accord, mais on est capable donc, voilà, à travers le sport, de vivre voilà, donc, là, 1h30 ensemble, à partager un petit match de foot. Là, ben, on sait se respecter, il y a des règles dans le sport, et on sait donc voilà, faire les choses ensemble.
Antoine Comboiré qui a mis sa carrière professionnelle en pause après avoir été à nouveau l'entraîneur du FC Nantes jusqu'à la fin de saison 2025 où il a réussi à maintenir le club des Canaries dans l'élite à la 13e place. Puis une pige comme commentateur sur M6 pour la finale de la Ligue des Champions remportée par le Paris Saint-Germain. Les pépins physiques ont poussé l'emblématique coach à prendre une année sabbatique.
Je fais ce qu'il faut pour mes genoux parce que les deux sont concernés. Après je vais repartir au combat, voilà, j'aime ça, c'est la seule chose que je sais faire, là, sur un banc entraîné. Puis après, donc, voilà, il y aura des projets qui se présentent. Bien sûr qu'il y a des projets qui sont présentés, mais aujourd'hui, je ne suis pas disponible. J'ai des autres choses à faire, beaucoup plus important qu'entraîner un club. C'est, on va dire, recharger les batteries, se soigner, et puis surtout donc, être prêt pour repartir encore plus fort, parce que voilà, quand vous vous absentez comme ça, là, je pense qu'il y a la motivation qui revient très vite. Puis il y a des fois des manques. Hein. Voilà, parce que le sport, c'est une drogue. Voilà, et une bonne drogue, d'ailleurs. Et je sais que c'est ce qui va me motiver donc, à revenir très vite, une fois que mes pépins seront réglés.
Lors de son passage au stade d'Aboeva, Antoine Comboiré a pu retrouver le maire de la commune, Elisabeth Rivière. Une fierté pour elle aussi de revoir celui qui a passé des années de sa jeunesse au Mont d'Or.
C'est un vrai honneur, mais au-delà de ça, Antoine, c'est Coulonne. C'est quelqu'un que j'ai connu dans mon enfance, puisque on a habité le même quartier sur Ploume, et que à l'association des pirogués du Mont d'Or, eh bien, il a passé aussi du temps avec nous. Donc pour moi, c'était important de pouvoir accueillir le garçon de Ploume sur la commune, et pour moi une grande fierté, puisque aujourd'hui j'occupe des responsabilités, et de se retrouver après plus de 40 ans qu'on ne s'était pas vu. Eh bien, c'était très important pour moi, et je crois que c'est très important aussi pour nos populations, et notamment pour le sport et pour le football. Ça permet de retisser aussi tous les liens, et ces liens du vivre ensemble. On sait qu'il y a quand même une fracture, mais au quotidien, nous nous efforçons de les retisser, et nous allons y arriver.
Également présent ce mercredi après-midi au Mont d'Or, le président de la Fédération Calédonienne de Football, Gilles Tavergeux.
On essaye d'en profiter à chaque fois qu'il revient sur le territoire, d'essayer de lui proposer quelque chose, et puis surtout que son image permette d'inciter encore plus nos jeunes à faire du football, et puis surtout à faire du sport en général. C'est très important qu'Antoine puisse dire quelques mots aux joueurs, et puis les encourager dans cette voie, puisque avec tout ce qu'on a connu depuis l'an dernier, donc c'est très intéressant, et puis en même temps c'est encourageant pour nous dirigeants du football que Antoine puisse relayer aussi ce message auprès de toute notre jeunesse.
Antoine Comboiré qui parrainera donc la grande conférence de la Fondation Roger Cadour prévue le 9 octobre prochain au Centre culturel Tchibao.
On reste sur les terrains de football avec la sélection calédonienne féminine des moins de 19 ans qui jouera demain la demi-finale du tournoi OFC de sa catégorie d'âge. Nos représentantes affronteront les Fidjiennes pour une place en finale. Début de la rencontre à 8h. La compétition se dispute à Tahiti. L'autre affiche du dernier carré opposera les Néo-Zélandaises aux joueuses des îles Cook. Et puis on termine avec de l'athlétisme handisport. Trois Calédoniens sont actuellement en Inde, à New Delhi. Pierre Fairbank, Félicien Siapo et Vittorio Cavacava sont engagés au championnat du monde, Michael.
Oui, le plus ancien et expérimenté, Pierre Fairbank, on vous l'a dit, a terminé déjà 7e de la finale du 400 mètres fauteuil. Il sera, d'ici la fin de la compétition, engagé sur le 100 mètres et 800 mètres fauteuil. Les séries du 100 mètres sont prévues demain aux alentours de 16h, heure de Nouméa. La finale à minuit et demi pour nous, dans la nuit de jeudi à vendredi. La finale du 800 mètres, elle, est programmée vendredi soir à 23h. De son côté, après avoir terminé 9e de la finale du lancer de javelot assis, Vittorio Cavacava participera vendredi dès 14h45 aux qualifications du lancer de poids assis. La finale est prévue samedi à partir de 22h45 pour nous. Enfin, les championnats du monde sont d'ores et déjà terminés pour Félicien Siapo qui a réalisé, lui, le 7e temps de la finale du 100 mètres.
Merci beaucoup, Mickaël. 18h passées de 20 minutes. Déjà, on passe à la météo.
La météo avec la SET. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La SET, construire, rénover, aménager.
La météo, c'est avec vous, Pierre, pardon.
Il n'y a pas de souci. Cette nuit, des nuages et quelques averses viendront intéresser la côte est. Des passages nuageux concerneront également les Loyautés. Ailleurs, les étoiles resteront bien visibles derrière un voile de nuages élevé. Le vent s'orientera partout au secteur nord-est de 15 à 20 nœuds aux extrémités de la Grande Terre et de 10 à 15 nœuds ailleurs. Les températures minimales demeureront élevées, comprises entre 19 et 23 degrés en général et pourront atteindre localement 24 degrés sur l'extrême nord. Demain matin, sur la façade ouest et les Loyautés, le temps sera ensoleillé malgré un voile de nuages élevé. Sur la côte est, les passages nuageux seront encore plus fréquents et pourront donner parfois une averse. Le vent de nord-est atteindra 15 à 20 nœuds aux pointes de la Grande Terre, tandis qu'ailleurs, il se maintiendra généralement entre 10 et 15 nœuds. Côté marée, elle sera basse ce soir à 22h04 pour 0,80 m. Elle remontera ensuite à 2h54 demain à 1,2 m pour redescendre ensuite à 0,6 m pour 9h34.